Gloire à notre Dieu. La série de réflexions, d'études ou de méditations, appelez-le comme vous voulez, appelez-la en parlant de la série, comme vous voulez, se poursuit dans la congrégation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai de l'année 2024 du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette séance d'études qui va continuer à considérer, tel que cela a été fait mercredi dernier, la saine doctrine de l'élection, hein, la doctrine de l'élection de l'Église. L'Église comme communauté, l'Église comme individualité, c'est-à-dire l'Église universelle, l'Église comme chaque individu l'est, étant le temple de Dieu, hein, étant le temple de la Trinité, du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, peu importe l'angle sous lequel vous considérez l'Église, la parole de Dieu, à travers Éphésiens chapitre 1er, les versets 4 à continuer, et beaucoup d'autres passages de l'Écriture qu'on avait considérés au passage, mercredi dernier, entre autres, nous enseignent clairement que cette Église-là a été choisie, hein, est choisie par Dieu de toute éternité pour être l'Église de Dieu, pour être l'Église du Seigneur. C'est ce qu'on a commencé à voir mercredi dernier. Nous voulons compléter cela avant d'enchaîner à d'autres bénédictions de l'Église, parce que la séquence que nous étudions par rapport à la doctrine de l'Église, c'est bien les bénédictions spirituelles de l'Église. C'est en parlant de cette séquence, en initiant cette séquence mercredi dernier, que nous avons été amenés à parler de la doctrine de l'élection comme la toute première de la série, d'une série de cinq bénédictions spirituelles que l'apôtre Paul déballe dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 15. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Et Paul nous fait comprendre que avant même, hein, quand il dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein, je vous avais dit que le nous s'entend, l'Église, chaque chrétien, chaque Église, chaque vraie Église et l'Église universelle. Par extension, Dieu nous a élus. J'avais dit que le terme élu ici, mais c'est choisi. Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés, hein, avant la fondation du monde. Hein, c'est de là que vient la doctrine de l'élection. Et je ne reviendrai pas sur les autres passages qui nous enseignent la même chose, pour ne pas trop étendu. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre, j'allais dire, à travers, eh bien, ce passage de l'Écriture, de son épître aux Éphésiens, qu'avant même que l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur, l'Église pentecôtiste ou pentecostale, l'Église catholique, pas catholique dans le sens de catholique romaine, mais catholique dans le sens de l'Église universelle. Catholique, ça veut dire pure. Pureté universelle. Hein? Avant même que cette église-là, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, ait pris naissance à la Pentecôte, c'est-à-dire au 50e jour après la résurrection du Seigneur, l'église était déjà une réalité. Nous l'assumons par la foi, hein? En nous basant sur la parole de Dieu. L'église était déjà, mes frères et mes sœurs, une réalité dans la pensée et la préscience éternelle de Dieu. Dire cela signifie parler du choix de Dieu de l'Église, de l'élection de Dieu, hein, de l'Église, mes frères et mes sœurs. Je répète, avant même que l'Église, hein, ait pris naissance telle que je vous l'avais enseignée il y a quelques semaines lorsque je parlais de la naissance de l'Église à la Pentecôte, c'est-à-dire au 50e jour suivant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'Église était déjà une réalité dans le plan éternel de Dieu, dans le dessein éternel de Dieu, dans la pensée et la préscience éternelle de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est-à-dire que l'Église est le fruit, l'Église est le produit, l'Église est le résultat du choix de Dieu, hein? L'Église est le résultat du choix de Dieu d'établir l'Église, hein, d'élire l'Église. L'existence de l'Église par le fait même est garantie par la personne même de Dieu et la volonté même de Dieu. L'Église comme entité, l'Église individuelle, chacun de nous et nous tous ensemble, eh bien, nous sommes garantis par la personne de Dieu et aussi par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là, autrement dit, par hasard. Nous avons été voulus, nous avons été désirés, nous avons été choisis. Voilà ce que veut dire, eh bien, la doctrine de l'élection, frères et sœurs. Nous avons, en tant qu'Église, entendu l'appel de Dieu. Nous avons vu la main tendue de Jésus-Christ. Et nous avons décidé de devenir chrétiens en confiant notre vie, notre destinée au Seigneur, en choisissant de marcher avec le Seigneur comme maître, comme Seigneur, comme sauveur, comme rédempteur. Nous disons que tout cela est vrai seulement du côté humain, du côté de la terre, hein? Tout cela est vrai du côté humain. Qu'est-ce qui est vrai du côté humain? Du côté de la terre, mais c'est le fait d'avoir entendu tel que la parole de Dieu nous demande de le faire. Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc, voyez-vous, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible demande, c'est ce que la Bible adresse comme message. Hein? Et ce faisant, vous et moi, nous sommes devenus l'Église. Mais tout cela n'est vrai que du côté de la terre, du côté de nous, du côté humain. Une manière pour moi de vous dire qu'en réalité, hein, en réalité, du point de vue de la réalité spirituelle, eh bien, il y a une chose plus extraordinaire que la réponse que vous et moi nous avons donnée à l'appel du Seigneur. Il y a quelque chose de plus extraordinaire qui s'est passé. Il y a quelque chose de plus grandiose, de plus merveilleux, de plus mystérieux, de plus incompréhensible même, à la limite, qui s'est passé dans le ciel de Dieu. Hein? Cette réalité, c'est que, hein, vous et moi, nous n'avons fait que répondre à un choix gracieux, un choix charitable que Dieu a fait de nous, que Dieu a fait de notre personne pour être ses enfants, pour être ses serviteurs, pour être ses servantes, ou alors pour lui appartenir, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et en vérité, si l'Éternel Dieu n'avait pas pris cette initiative de nous élire, de nous choisir, de nous désirer avant la fondation du monde, peu importe les efforts que nous aurions faits, nous n'aurions pas été capables de lui appartenir, frères et sœurs, d'être ses serviteurs et ses servantes. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous rappelle ce soir très clairement dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4a, que Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. irréprochable devant lui. Il nous a choisis. Je reviendrai sur cela, parce que juste ça, c'est un autre aspect de l'enseignement que nous voulons et partager avec vous. Cela, le fait que Dieu nous ait choisis dès avant la fondation du monde, hein, le fait que Dieu nous ait choisis, vous et moi, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables, exclut toute idée de mérite personnel. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. J'avais dit que le mérite personnel ne joue aucun rôle dans notre élection. Hein? L'élection exclut, la doctrine de l'élection ne tient aucun compte du mérite personnel. Vous et moi, nous le savons très bien. Nous avons assez vécu, hein, pour le savoir. L'homme choisit en fonction de ce que son choix lui apportera en retour comme avantage. Et c'est légitime. Le conjoint, hein, l'amoureux, choisit sa future conjointe, hein, parce que elle lui plaît. Inversement, la conjointe, la future conjointe, l'amoureuse, choisit son amoureux qui sera demain, Dieu voulant, son conjoint, sur la base du fait que son intérieur, mêlé avec son extérieur, ou peut-être l'un des deux, lui plaît. Et c'est légitime, frères et sœurs. Les organisations, hein, que ce soit les organisations privées, gouvernementales, communautaires, publiques, nationales, internationales, elles choisissent leurs dirigeants, elles choisissent leurs employés, hein, sur la base de leur CV, hein, incluant leurs connaissances, leur formation, leur expérience. Souvent, on parle d'expérience pertinente. Si vous n'avez pas d'expérience ou d'expérience pertinente, mais vous n'êtes pas désiré, vous n'êtes pas accepté, on ne vous veut pas, on ne veut pas de vous. Hein? Parce que l'organisation s'attend à ce que la personne, hein, qu'elle va choisir, eh bien, sera capable de, eh bien, contribuer au rendement, eh bien, de la société, de l'organisation. Les gens, autrement dit, choisissent ceux qui les convainquent. Il y a un seul. Il y a un seul qui ne choisit pas de cette façon-là. C'est Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus dans son cœur éternellement lorsque vous et moi, nous n'avions pas de CV. Hein? Nous n'avions rien en nous qui pouvait lui plaire. Lorsque nous n'étions pas désirables, Dieu nous a choisis lorsque, eh bien, nous n'étions pas capables de le convaincre. Dieu nous a choisis lorsque nous n'étions pas capables de lui plaire. Nous n'avons rien de plaisant en nous. Nous n'avons rien de désirable lorsque Dieu nous a choisis. Cela est d'autant plus vrai que le choix de Dieu de nous, ou alors le choix que Dieu fait de nous, hein, a été fait avant même que le monde existe, avant même que le monde, eh bien, soit fondé. C'est là la beauté de la chose, mes frères et mes sœurs. Nous n'avons même pas été conçus, hein, lorsque Dieu nous a choisis. Que dire d'avoir eu quelque chose qui pouvait lui convaincre, quelque chose qui pouvait lui plaire, quelque chose qui pouvait nous rendre désirables à ses yeux saints, trois fois saints, frères et sœurs. Mais bien-aimés, au contraire, Dieu nous a choisis. Ah, bien important. Au contraire, au lieu d'avoir quelque chose en nous qui pouvait nous rendre désirables, non, nous étions plutôt indésirables, hein, et Dieu nous a choisis pour nous rendre désirables. Voilà, mes frères et mes sœurs, la beauté de la chose. Dieu nous a choisis pour nous transformer. Hein, le texte le dit, pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est la raison, nous y reviendrons. Mais commencez à noter que c'est le but de l'élection divine. Nous a choisis, hein, pour travailler en nous, pour nous transformer, pour nous rendre beaux, pour nous rendre purs, pour nous rendre belles, pour nous rendre désirables, pour nous rendre capables de lui plaire, mes frères et mes sœurs. La doctrine de l'élection, c'est plus qu'une question d'intellectualité. C'est plus qu'une question de connaissance. C'est de la connaissance, oui, mais c'est de la connaissance pour vivre, hein? La connaissance pour grandir dans la foi. La connaissance pour, eh bien, savoir que si le monde ne nous désire pas, si le monde ne nous accepte pas, si le monde autour de nous ne nous aime pas, mais nous avons l'intime conviction qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Et lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime, par-delà ceux qui ne nous aiment pas, nous avons la force de vivre, nous avons la force d'avancer. À cet égard, frères et sœurs, mes bien-aimés, la doctrine de l'élection est là pour nous sécuriser. Quel était tout lorsque votre blond ou votre blonde, eh bien, ne vous aime plus, ne vous désire plus. Quel était tout lorsque votre patron ne vous aime plus. Quel était tout lorsque voisin ne vous aime plus. Quel était tout lorsque fidèle ne vous aime plus. Quel était tout lorsque pasteur ne vous aime plus. Quel était tout, frère. Quel était tout, sœur, parce que celui qui est plus important vous aime. Et Dieu merci, vous n'avez rien en vous. Hein, si cela dépendait de vous, peut-être que vous ne mériteriez pas cet amour-là. Il y a quelqu'un qui vous aime. Ça devrait nous apaiser devant l'angoisse de la vie, devant les calamités, devant les soucis de la vie. La doctrine de l'élection est là pour nous apaiser. Elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous consoler ce soir, mes frères et mes sœurs. La doctrine de l'élection divine de l'Église, de vous, de moi, de chacun de nous, dès avant la fondation du monde, est là pour nous faire comprendre que nous pouvons venir à Jésus. C'est ce qui s'est passé dans votre cas, dans mon cas. Nous étions capables de venir à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien, parce que en Jésus-Christ, nous savons que nous sommes acceptés, frères et sœurs. Nous étions capables de venir à lui parce que nous savions qu'en lui, nous étions aimés, nous étions désirés, nous étions choyés, nous étions choisis, frères et sœurs. Si cela devait être quelque chose à faire pour nous approcher de lui, nous serions encore loin de lui à des années-lumière, eh bien, de ce Dieu-là. Je viens à Dieu sans rien apporter. Je suis venu à Dieu sans rien apporter. Je suis venu à Dieu sans rien qui lui plaise. Je viens à Dieu sans rien qui lui plaise. Je suis venu à Dieu sans rien de convaincant. Et c'est alors que Dieu lui-même va s'occuper de me transformer, de me rendre convaincant, de me sanctifier, de me purifier, de me laver pour lui plaire dans sa grâce et par sa grâce. Voilà le sens de la doctrine. Voilà la portée. Voilà la pertinence de la doctrine biblique, de la doctrine chrétienne de l'élection, frères et sœurs. Dieu nous transformera jusqu'à la ressemblance de son Fils unique premier-né, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, en qui il nous a choisis, en qui il nous a élus. C'est tout à fait radical, frères et sœurs, mes bien-aimés, mais c'est toute une autre vision du monde. Dieu a fait le choix que personne d'entre nous ne ferait, frères et sœurs, que personne d'entre nous n'a jamais fait de toute façon, choisi pour rien. Non, Dieu nous choisit pour rien. Et ce qui est à faire, hein, c'est lui qui va le faire. Hein. C'est une autre théologie par rapport à la théologie que le monde véhicule aujourd'hui. Hein. C'est la théologie du mérite. Hein. C'est la méritocratie, mais en Dieu, c'est la faveur. En Dieu, c'est la grâce. En Dieu, c'est la compassion. En Dieu, c'est la miséricorde. Et voilà pourquoi notre Dieu mérite notre adoration et notre amour en retour. Cela m'amène à approfondir ce point que j'ai déjà mentionné, à savoir dans quel but Dieu nous a choisis. Mais le texte le dit, Dieu nous a choisis au verset 4a pour que nous soyons saints et irrépréhensible, entendons par là irréprochable. Cela veut dire littéralement sans défaut, hein, sans tache. Dieu nous a choisis pour que nous soyons sans tache. Dieu nous a choisis pour que nous soyons sans défaut. En parlant de défaut corporel ou de défaut moral ou de défaut appelé sous n'importe quel angle que vous pourriez considérer le défaut. Jésus s'est donné pour nous, dit la Bible en 1 Pierre 1, le verset 19, comme un agneau sans défaut. Jésus s'est donné pour nous comme un agneau sans défaut. C'est pour cela qu'il a fallu que ce soit Jésus qui se donne pour nous, parce que l'objectif de Dieu, c'est de faire de nous sans défaut, sans tache, irrépréhensible. Eh bien, nous avons reçu la nature de Jésus. Hein, nous sommes sans défaut pas parce que nous sommes quelque chose ou cela ne vient pas de nous. Ici, l'Écriture n'est pas en train de parler de notre comportement. Et bien sûr, ce sera le cas plus tard dans la même épître de Saint Paul, dès le chapitre 4, verset le chapitre 5. Il sera question de la sainteté, eh bien, pratique, mais ici, il est question de pureté, de sainteté positionnelle, comme je l'avais dit mercredi dernier. Hein, Dieu nous a, le fait seulement que Dieu nous a placés et il nous a choisis en Jésus-Christ, eh bien, nous revêtons la pureté de Christ. Nous revêtons la justice de Christ. Nous revêtons la sainteté de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Les indignes que nous avons été, nous sommes maintenant déclarés dignes. Hein? Les injustes que nous avons été, eh bien, nous sommes maintenant déclarés justes. Le plan éternel et ordonné d'avance de Dieu, c'est de faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est l'apôtre Paul qui reprend ce même objectif divin pour son Église qu'il a choisi dès avant la fondation du monde dans le même livre, au chapitre 5, le verset 27. Paul dira que Dieu, hein, a comme plan de faire paraître, hein, cette Église devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà le but pour lequel, ou bien le but dans lequel, l'objectif poursuivi par Dieu dans votre élection, dans mon élection, ou dans l'élection de son Église universelle, mes frères et mes sœurs. Tout ce que notre Dieu est, nous le devenons en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Dieu est sans défaut, mais nous devenons sans défaut. Nous héritons la nature de Dieu. Ah. Nous héritons la nature de Dieu en Jésus-Christ. Et alors, vous comprenez que l'une des conséquences de la doctrine de l'élection, eh bien, c'est que notre salut est assuré. Notre vie éternelle est assurée. Nous possédons la justice parfaite de Christ éternellement. Nous possédons la justice, la sainteté parfaite de Jésus-Christ éternellement. Notre comportement n'est pas toujours à la hauteur. Il nous arrive de faillir, il nous arrive de trébucher dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Nous n'allons pas nous voiler la face. Nous luttons, nous allons continuer à résister au diable afin qu'il fuit de nous. Cependant, nous savons que dans ce corps de péché, dans ce monde de péché, eh bien, il nous arrive de trébucher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de trébucher ne change rien à notre position en Jésus-Christ. Et quand je disais ça mercredi dernier, j'ai dit que cela ne signifie pas que c'est un free for all. Cela ne signifie pas que j'encourage personne à vivre une vie de désobéissance, une vie de péché, une vie de quoi que ce soit, de pas conformant à la volonté du Seigneur. Mais j'en parle parce que c'est ce que l'Écriture nous apprend, mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire que nos trébuchements, eh bien, n'enlèvent rien à cette position d'être sans tache, à cette position de sainteté, de pureté, eh bien, dans laquelle le Seigneur nous a placés, pour laquelle aussi Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Mais nonobstant cela, nous sommes appelés à travailler à notre salut. Nous sommes appelés à être saints comme lui-même est saint. Vous connaissez, eh bien, l'autre pendant, eh bien, l'autre revers de la médaille de cette doctrine, de cet enseignement, frères et sœurs. Parce que Dieu nous a déclarés sans tache, parce que Dieu nous a déclarés justes, parce que Dieu nous a déclarés saints, irrépréhensibles et irréprochables, eh bien, nous sommes appelés à nous efforcer de vivre maintenant d'une façon qui reflète la sainteté de Dieu, qui reflète la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu pour notre vie. Dieu nous a justifiés, il nous a déclarés sans reproche à ses yeux, et par son esprit, il nous a sanctifiés. Il nous fait pénétrer, hein, au cœur même de sa sainteté. Il nous fait participer au cœur même de sa pureté, à sa pureté, hein, de nature. Eh bien, nous sommes voués maintenant à la perfection. Que le Seigneur nous fasse la grâce, eh bien, de pouvoir, eh bien, mener une vie conforme à ce qu'il a voulu faire pour nous, en nous et mes frères et mes sœurs. Et tout cela, pourquoi Dieu le fait? Quel est le motif derrière? Je l'ai effleuré, mais nous allons plus ou moins le détailler. Quel est le motif derrière? Nous avons parlé du but de l'élection divine de l'Église. Nous venons de voir le but, mais maintenant, quelle est la motivation de Dieu? La motivation de Dieu, c'est l'amour. Le texte dit, il nous a prédestinés dans son amour. Vous le voyez? Toujours le verset 4. Hein? On peut vraiment passer beaucoup de temps au verset 4 de Éphésiens 1er. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ou plutôt, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour. Verset 5a. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ah, c'est important. Tout comme l'amour, tout comme c'est par amour, Dieu a choisi Israël pour être son peuple élu. On a vu ça mercredi dernier. Mais c'est par amour que Dieu a choisi l'Église. Hein? Il nous a choisi. Il nous a prédestinés dans son amour. Le motif de Dieu, c'est l'amour. Ce qui guide Dieu, c'est l'amour. Ce qui guide l'élection divine, c'est l'amour. J'en ai parlé tout à l'heure. La famille des rachetés, la famille du peuple de Dieu est choisie par amour. Gloire à Dieu. Vous savez, l'amour biblique n'est pas un simple sentiment. L'amour biblique n'est pas une simple question de sentiment. Très important de comprendre cela. Nous prêcherons bientôt sur la famille, vous le verrez. L'amour biblique, hein, l'amour au sens biblique du terme, quand j'anime des classes de mariage, c'est l'une des premières vérités que je partage avec les futurs mariés. L'amour biblique, là, ce n'est pas seulement une question de sentiment. C'est une question de disposition du cœur. Hein? Une question de disposition à chercher le bien de l'autre, le bien des autres. C'est une question de disposition à répondre aux besoins des autres. C'est plus qu'un sentiment, hein? Très, très important de comprendre cela. Le Christ a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, le verset 13. Et en vérité, c'est exactement ce que Jésus a fait pour ceux que Dieu a choisis dès avant la fondation du monde pour être l'Église, pour lui appartenir, pour être son peuple, le troupeau de son pâturage. Il l'a fait par amour. Dans l'acte suprême de l'amour divin, Dieu a déterminé avant la fondation du monde qu'il donnerait son Fils pour notre salut. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, voyez-vous le motif? Le motif se répète de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le motif de la relation de Dieu avec son peuple, du choix de Dieu de son peuple, du don du Fils pour le salut de son peuple, il n'y a rien d'autre comme motivation. Je vous l'avais dit, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a rien que Dieu pouvait tirer en retour. Il l'a fait de manière désintéressée. Il l'a fait par amour. Mais Dieu, dit Saint Paul, Éphésiens 2, versets 4 et 5, qui est riche en miséricorde, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. Dieu nous a aimés et Dieu continuera de nous aimer éternellement. Voilà la vérité biblique. Ce soir, il continuera à nous aimer selon le bon plaisir de sa volonté, mes frères et mes sœurs. Je vais partager avec vous ce qu'il y a un auteur très prisé dans le milieu universitaire évangélique, en l'occurrence C.S. Lewis. C.S. Lewis dit ceci de l'amour. Aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est courir le risque de déchirer et de briser son cœur. Répète. C.S. Lewis, hein, un savant chrétien, hein, évangélique, qui a laissé parler sa foi et son cœur, hein, de la façon suivante en disant, aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est courir le risque de déchirer et de briser son cœur. Si vous voulez maintenir votre cœur intact, ne le donnez à personne pas même à un animal de compagnie. Mais vous savez pourquoi je vous évoque ce passage? C'est parce que ce que le C.S. Lewis dit là, c'est biblique. Et Dieu le sait. Si vous regardez comment Dieu pleure, comment Dieu est choqué, comment Dieu est indigné, comment Dieu est triste lorsqu'il est trahi par Israël, lorsqu'il appelle son peuple à revenir à lui. Et Dieu dit clairement que son cœur est déchiré, que son cœur est brisé. Et son cœur saigne, son cœur est saigné. Et relisez le livre du prophète Osée, entre autres. Vous allez voir comment Dieu pleure devant les blessures qu'Israël, que son peuple lui a infligées. Et Dieu sait, son Église, vous et moi, combien de fois nous l'avons blessé, combien de fois nous l'avons indigné, combien de fois nous l'avons attristé, frères et sœurs. Et évidemment, c'est Paul parlera de ne pas attrister le Saint-Esprit. Hein? Le cœur de Dieu est journellement brisé par son peuple, est quotidiennement brisé par son peuple. Mais Dieu savait que vous et moi, nous aurions été capables de briser son cœur. Et pourtant, il nous a donné son cœur. Il nous a donné accès à son cœur. Ce n'est pas comme vous, ce n'est pas comme moi, qui ne savons pas toujours que en donnant l'amour, quelqu'un va nous briser le cœur. Si nous aimons telle ou telle voiture, nous ne pouvons pas l'acheter. Peut-être que ça va nous briser le cœur. Si nous aimons tel ou tel emploi, tel travail, que le travail ferme, eh bien, ça nous brise le cœur. Si nous aimons telle ou telle personne, puis elle nous laisse en cours de route pour partir, pour sortir à quelqu'un d'autre, nous sommes brisés, nous sommes défaits, nous sommes déboussolés. Dieu le sait. Et évidemment, nous le blessons. Il arrive qu'il nous pardonne. Il arrive que quand nous nous repentons, eh bien, il nous pardonne. Il nous réintègre dans sa communion, dans son intimité, dans sa joie, dans la joie du salut. Mais nous ne pouvons pas cacher que chaque fois que toi et moi nous péchons, mais nous saignons le cœur de Dieu, nous le blessons, nous l'indignons, nous l'attristons. Mais il arrive que Dieu nous a donné son cœur pareil, mes frères et mes sœurs. Il donne son cœur en connaissance de cause et il ne cesse de donner son cœur. Après être blessé, il redonne son cœur à toi et à moi à nouveau. Mais j'ai dit redonne, mais j'ai dit à nouveau une manière de. Je fais un pléonasme voulu pour mieux vous faire voir la longanimité de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu envers son Église qu'il a élue dès avant la fondation du monde. Il donne son cœur à nouveau. Demain matin, nous péchons, nous nous repentons, mais il arrive que tant et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de péché, eh bien, nous attristerons occasionnellement, accidentellement notre Dieu. Alors, tout cela, c'est pour vous dire que Dieu qui nous a aimés, il nous aimera toujours. C'est ce que je voulais dire par là. Nonobstant les blessures que son peuple est capable de lui infliger, il nous aime et il nous aimera éternellement. Ça ne changera pas. J'ai besoin que vous compreniez ça. Pourquoi ça ne changera pas? Mais parce que ça ne dépend pas de nous. Parce que ça, c'est pas sur la base de mérite. Non, il savait, il le savait. Au contraire, il nous a appelés pour nous transformer, pour nous rendre sans tache, pour nous rendre irréprochables. C'est ça qui fait que notre salut est éternel. C'est ça qui fait que son amour pour nous est éternel. Cette conviction d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, cette conviction que nous avons en tant qu'Église du Seigneur d'avoir répondu au choix de Dieu de notre personne dès avant la fondation du monde, frères et sœurs, doit donc nous garder dans la pureté, je l'ai dit, dans la sainteté, je l'ai dit, mais également dans l'humilité, sachant que nous n'avons rien fait pour mériter l'amour divin, pour mériter d'être élu, d'être choisi, d'être désiré, d'être accepté. Cela devrait nous motiver à la reconnaissance, à l'action de grâce. Passer des journées, des mois, des années à remercier Dieu pour cet amour, pour cette élection, pour ce choix éternel, mes frères et mes sœurs. Cette conviction de l'élection devrait nous motiver, eh bien, à la louange constante à l'égard de notre Dieu. En tout cas, cet objet même de l'exposé de saint Paul, hein, c'est le but même de l'exposé de saint Paul, nous inviter à l'action de grâce, à la louange constante. Il dit au verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voyez-vous? Donc, nous sommes motivés à la reconnaissance, à l'humilité, à la sainteté, à la pureté, hein, de cœur, de vie, d'action, de conduite, d'attitude, de pensée. Mais également, nous sommes invités, mes frères et mes sœurs, eh bien, à la louange de notre Dieu constamment. Quand nous nous levons le matin, Nous prions Dieu, nous remercions Dieu pour la vie physique, la vie temporelle, la vie naturelle, la création. Mais nous n'oublions pas de le remercier pour l'élection. Hein? Souvent, quand je prie, vous m'entendez prier pour l'élection, la justification, la propitiation, l'expiation, la glorification future. Quand on comprend bien les termes, eh bien, on est mieux en mesure bien de louer notre Dieu en nommant eh bien, ces termes qui traduisent des aspects de ce grand salut que notre Dieu eh bien, nous accorde. Et c'est ça la raison d'être de cette étude, nous accompagner à découvrir eh bien, les divers aspects, les diverses eh bien, et réalités eh bien, qui composent notre grand salut, mes frères et mes soeurs. Et parmi ces réalités-là, l'élection en est la toute première, d'accord? N'oubliez ça jamais. L'élection est la toute première bénédiction spirituelle dans la globalité du salut, dans la démarche entreprise par Dieu pour sauver son peuple. La première chose que Dieu fait, c'est de élire son peuple, ok? C'est de choisir son peuple, mes frères et mes sœurs. En même temps, la conviction de la doctrine de l'élection, la conviction d'être, d'avoir été choisi par Dieu dès avant la fondation du monde, est là pour nous donner, est enseignée dans la parole de Dieu, pour nous donner l'assurance que celui qui nous a choisis est fidèle. Il est fidèle pour nous amener jusqu'au bout de notre pèlerinage. Ça, c'est important. L'apôtre Paul a bien compris cela quand il dit au pasteur Timothée dans 2 Timothée 1, 8 à 12, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Suivez bien. Et si vous avez le temps d'ouvrir votre Bible, faites-le. 2 Timothée 1, 8 à 12, Saint Paul dira au pasteur Timothée, son protégé, n'aie donc, vous allez voir pourquoi, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Donc, témoignage et service, parler de lui, le glorifier, l'aimer, lui obéir, hein? Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Suivez bien, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Ah, non à cause de nos œuvres. Ah, mais selon son propre dessein, le dessein de l'élection, le dessein de grâce, selon son propre plan, selon son propre sa propre initiative, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est-à-dire dès avant la fondation du monde, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Au verset 11, Saint Paul dira, c'est pour cet évangile, l'évangile de l'élection, ah, l'évangile du salut, l'évangile de l'adoption, l'évangile de la justification, l'évangile de la glorification, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. En fait, je voulais non seulement attirer votre attention sur l'importance de répondre à Dieu par une vie d'adoration, de service, d'action de grâce, d'obéissance, de reconnaissance, d'humilité, d'engagement pour Dieu, compte tenu de votre choix, de votre appel, de votre vocation, dès avant les temps éternels, premièrement. Mais j'ai visité ce passage avec vous également pour et corroborer ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que l'élection nous fait comprendre que eh bien, notre position en Dieu est éternelle. Eh bien, Paul nous le dit ici quand il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire au jour du Christ. En Romains 8, versets 38 à 39, il dira essentiellement la même chose sous d'autres termes, sous d'autres mots. Car j'ai l'assurance que ni la mort, un Dieu qui a fini de, qui vous a choisi dès avant la fondation du monde, ou autre comme même qu'on sous ta fête, tu savais même pas si tu serais né, eh bien, il n'y a pas moyen qu'il t'abandonne. Il n'y a pas moyen qu'il te lâche. Il n'y a pas moyen qu'il te laisse en chemin, te débrouiller toute seule, non, jamais. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, dit Saint Paul, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, de quelle manière? Eh bien, dans sa mort, bien entendu, mais également dans son élection. Nous avions dit que le motif de l'élection divine, c'est l'amour de Dieu, c'est la compassion de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Alors, vous et moi, là, on me raconte l'histoire d'un homme de Dieu que vous connaissez tous, là, ici, hein, qui a un parent, ou bien un parent, en Haïti, qui a une grande école. C'est une école qu'elle avait commencé avec deux classes. Là, l'école est devenue une grande école, beaucoup de classes. On m'a dit combien de classes, j'ai oublié. Et puis cette femme-là, sous le feu, cette femme de Dieu-là, hein, elle est parente de quelqu'un de notre famille d'église que vous nous connaissez très bien. On me dit que tous ses parents ont voyagé au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Elle ne veut pas partir, elle aime son école, elle aime son monde. Parce qu'elle chérit cette école-là qu'elle a fondée quand elle avait seulement deux classes. Et aujourd'hui, elle est rendue à environ 42 classes, de ce qu'on m'a dit. Mais elle n'a pas le courage. Elle reste sous le feu de la rampe, avec tout ce qu'on connaît de désagréable, d'insécurité. Elle ne veut pas abandonner cette école-là. À qui je vais laisser cette école-là? Mais on pourrait prendre d'autres exemples encore. Des gens qui ont des objets d'art qu'ils ont acheté dans leur enfance, des choses importantes, des bijoux, ils aiment tellement ces choses-là. Des gens qui ont des petites maisons, ils les aiment tellement, ils ne veulent pas les vendre, même si elles sont en mesure d'acheter de grosses maisons, et demeurent attachées avec ça, ils les aiment. Alors vous pensez qu'un Dieu que vous avez eu le avant la fondation du monde, eh bien, il savait que tu as pour pécheur, il était qu'on pas le péché en Adam, et bien, vous comprenez que tu n'as pas abandonné en route. Qui t'a quitté comme ça, les problèmes viennent, les tracas viennent, les déceptions viennent, les maladies viennent, les larmes viennent. Vous comprenez, on Dieu comme ça, t'as quitté pour tout. Et puis, malin, encore pour t'aller dans l'enfer encore après tout le bagage, ça y est. Jamais l'Église. Votre assurance est certaine. Votre espérance est certaine. Car rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, le Dieu de l'élection, le Dieu qui vous a élu en Jésus-Christ. En plus de tout cela, que j'ai mentionné concernant la doctrine de l'élection comme implication, frères et sœurs, implication pratique pour la vie spirituelle, la vie chrétienne pratique. Il faut aussi noter que la doctrine de l'élection nous apprend plusieurs choses. D'abord, cette doctrine nous apprend que, ça c'est important, je vais doucement, notre identité est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Le Dieu qui vous a choisi dès avant la fondation du monde, votre identité est en lui. Votre identité n'est pas dans votre église, mon frère. Votre identité n'est pas dans ton nom de famille, mon frère, ma sœur. Votre identité n'est pas dans ton baccalauréat, dans ton diplôme, dans ta maîtrise. Votre identité n'est pas dans ton amoureux, dans ton amoureuse. Votre identité est en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit, car c'est Dieu qui a pris des risques pour toi. Ah, on parlait de risque tout à l'heure, risque d'être blessé. Risque d'être attristé, risque d'être trahi. Eh bien, votre identité est en Dieu, OK? Notre satisfaction également est en Christ. Ah. Notre joie est en Christ. Notre fierté est en Christ. C'est lui qui nous a choisis, que voulez-vous? C'est lui qui nous a choisis pour rien, sur la base d'aucun mérite. Notre bonheur est en Christ ce soir. Le sens de la vie, la valeur de la vie ce soir, est en Christ pour toi et pour moi, frères et sœurs. Le fait de penser à nous-mêmes et d'essayer d'atteindre des sommets par nous-mêmes, ce n'est pas ce qui nous apporte la satisfaction et le bonheur. C'est important, bien entendu, de travailler dur, de travailler, de penser fort, d'économiser. On a tout enseigné ça dans la congrégation. Mais notre joie, notre identité, notre bonheur, notre satisfaction n'est pas dans ces choses. Trop de gens pensent que leur joie est dans les choses éphémères. Il nous faut corriger cette situation, frères et sœurs, dans les églises et dans les familles, en sorte que quand les gens n'ont pas de raison d'espérer quant au monde, ils perdent tout espoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fondé leur espoir, leur espérance dans le monde. Ton espérance n'est pas ici-bas, frère. S'il y a des choses d'ici-bas que tu n'as pas, ben je comprends, c'est difficile, mais il n'y a pas lieu de désespérer pour cela. C'est Dieu, par Jésus-Christ, qui comblera son peuple, qui étanchera la soif de son peuple, qui pourvoira aux besoins de son peuple, qui dissipera la faim de son peuple. Quand tu as faim d'amis, quand tu as faim d'amour, quand tu as faim de courage, de bonheur, de paix, de joie, de repos, de satisfaction, vers qui vous vous tournez pour avoir ces choses? Réussir, être numéro un dans le cœur d'un homme, d'une femme, dans ton travail, dans l'église, dans la famille, dans ta classe, c'est bien. L'héritage familial, un bon revenu, une bonne éducation, c'est bien. Qui peut être contre la vertu? Mais ce n'est pas cela qui définit votre identité. Votre identité est en Christ. Il vous a élu en Christ. Dès avant la fondation du monde, votre satisfaction est en Christ. Notre valeur, c'est le fait d'être l'objet de l'amour divin éternel. Notre valeur dépend du fait d'avoir été choisi par Dieu et d'appartenir à Dieu pour toujours. Notre valeur, notre bonheur, notre joie, notre satisfaction, notre paix dépend du fait que nous avons part à l'héritage éternel de Dieu, même à sa nature sans tache, même à sa nature de pureté, de sainteté absolue, frères et sœurs. Vous savez, je termine avec cela. Le problème le plus profond du sens de l'existence ou de la vie ne se résoudra pas avec les choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été données pour cela. Les choses matérielles n'ont pas été données pour cela. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mandat que Dieu leur a assigné dans l'existence. Un beau soleil, soit un beau temps, une bonne température, un peu de sous, un peu de connaissances, très bien. Mais les choses passagères ne les préoccupent pas. Pourquoi? Mais la Bible dit pourquoi, hein? Parce que Dieu, l'Ecclésiaste nous dit pourquoi, hein? Ecclésiaste chapitre 3. Parce que Dieu a mis dans nos cœurs, naturellement, à la création, la pensée de l'éternité. Vous et moi, nous aspirons naturellement à l'éternité. Lorsque l'apôtre Paul est allé à l'Aréopage, il voyait des gens qui adoraient toutes sortes de choses. Il dit, écoutez, ce que vous cherchez là, c'est Dieu. Ce que vous cherchez sans le savoir, ce que vous adorez sans le savoir, c'est Dieu. Les jeunes hommes qui se livrent à la pornographie, c'est Dieu qu'ils cherchent. Ils ne le savent pas, ils l'ignorent. Ils recherchent la satisfaction, mais Dieu est la source par excellence de la satisfaction. Les gens qui courent après les femmes, même dans le mariage ou après le mariage, je ne sais plus quoi, ou qui, les gens qui courent après l'argent, qui courent après les pouvoirs, c'est Dieu qu'ils cherchent, oui. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils sont en recherche de satisfaction, ils sont en recherche de pouvoir, ils sont en recherche d'autorité, ils sont en recherche de bien-être, ils sont en recherche du sens de la vie, ils cherchent Dieu sans le savoir. Alors que mon Dieu a été là, mon Dieu a gaspillé a été là. Les jeunes femmes, les jeunes hommes qui courent après toutes sortes de choses, de modes, de où qu'on est, où qu'on est. C'est Dieu qu'ils cherchent. Ils ne le savent pas. Alors que mon Dieu a gaspillé. Ça m'amène à dire que vous et moi, nous sommes vraiment des gens bénis de ce que nous avons compris que notre bonheur est en Dieu. Dieu nous a ouvert les yeux pour comprendre que notre satisfaction est en lui. Et nous nous sommes tournés vers lui. Nous avons tout abandonné. Nous avons plaidé coupable. Et nous nous sommes tournés vers Dieu pour lui dire, Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que tout ce après quoi nous courons là, c'est après toi que nous courons sans le savoir. Fais-nous la grâce de nous accepter en Jésus-Christ, de reconnaître que tu nous as choisis avant la fondation du monde pour appartenir à toi, pour être tes enfants bien-aimés. Et il l'a fait. Et voilà aujourd'hui, vous et moi, nous sommes l'Église. Gloire à notre Dieu. L'assurance de l'amour éternel de Dieu, c'est une valeur sûre pour son peuple, pour son Église, frères et sœurs. Notre Dieu est capable de garder notre dépôt, frères et sœurs. Et c'est moi vous dire ce soir, chaque fois que l'homme se met à chercher la satisfaction, c'est Dieu qu'il cherche. Et tout effort humain pour obtenir la satisfaction n'amènera jamais nulle part en dehors de Dieu. Pourquoi, pasteur? Est-ce que c'est parce que Dieu est un Dieu vindicatif, un Dieu vengeur, un Dieu méchant? Non, aucun rapport. C'est parce que nous sommes nés, nous sommes créés comme cela. Nous sommes créés pour vivre dans la dépendance à Dieu. Dès que nous ne sommes pas en communion avec Dieu, mais ça ne marchera pas. Parce que Dieu est méchant. Dieu n'a rien fait pour cela. À partir du moment où Adam et Ève ont été placés dans le paradis édénique, eh bien, Dieu leur a fait comprendre clairement que la vie dépendait de lui, de la relation avec lui. À l'origine, nous sommes faits, nous sommes créés, nous sommes conçus, nous sommes calibrés, nous sommes programmés pour vivre dans la dépendance à Dieu, dans la relation à Dieu, dans la communion à Dieu. Et sans cette relation, sans cette communion, sans cette intimité, plus rien ne marchera. On pourra rire, on pourra se réjouir, on pourra avoir une belle santé, un bon emploi, tout. On va prier pour cela. Mais la satisfaction profonde, le bonheur véritable, la stabilité à tous égards, pas si sûr, en tout cas de ce que je comprends de l'Écriture. En sorte que plus certaines personnes se livrent à des jeux superficiels, à des quêtes superficielles de bonheur, de satisfaction, de joie, plus ils sont vides, plus ils ont soif, plus ils ont faim. Hein? Les gens qui se droguent peuvent vous en parler. Hein? Plus ils se droguent, plus ils ont besoin de se droguer. Plus ils se dopent, plus ils ont besoin de se doper. Et ce n'est pas vrai juste pour la drogue, c'est vrai pour toutes sortes de péchés. Plus on pêche, plus on veut pécher. Pourquoi? Parce qu'on cherche la satisfaction. Que le Seigneur continue dans sa grâce de nous en préserver comme son Église. Mes frères et mes sœurs, je reviendrai, si Dieu veut le veut, sur ce point. J'ai une autre implication à vous partager en ce qui a trait. J'ai une autre retombée spirituelle, hein, pas oublier. J'ai une autre retombée spirituelle à partager avec vous en ce qui a trait à la doctrine de l'élection. Si le Seigneur me prête vie mercredi prochain, je préfère m'arrêter ici. Il est moins tard pour vous permettre, après avoir arrêté l'enregistrement, de partager quelques expériences ou peut-être poser quelques questions à la gloire de notre Dieu. Laissez-moi d'abord arrêter l'enregistrement. Soyez bénis dans la grâce, la miséricorde, l'amour éternel de notre Dieu, mes frères et mes sœurs.